Témoignage 1.
Chaque jour, un nouveau cours pour nous inviter à ne pas harceler les collaborateurs, à adopter un style de management bienveillant, à faire recours à la communication non violente, à apprendre à évaluer un collaborateur, etc., etc. Bon, s'ils pensent vraiment qu'on a besoin de tout ça, c'est à se demander comment ils peuvent encore nous laisser la responsabilité de nous occuper des patients. Et aujourd'hui, la direction des ressources humaines nous invite à un nouvel atelier, communiquer au quotidien. Il s'agit donc de nous apprendre la communication dans le quotidien, où on se dit bonjour, on se croise, on demande un croissant à la cafétéria, bref, quand nous sommes nous-mêmes. Animé par un coach, au fond c'est quoi son background à ce coach de Be Human Consulting? Et ils prennent combien de l'heure ces coachs? L'atelier durera 1 heure et demie et n'aura aucun effet. Il est bien connu dans la littérature sur la formation en matière de communication soignant-soigné que ces interventions brèves, sans exercice, sans jeu de rôle, sans simulation de la situation, sans supervision, sans attention portée sur les interactions et les enjeux relationnels de la communication n'ont strictement aucun impact sur les participants. Alors qui évalue ces formations quant à leur efficacité? Qui évalue les intervenants? Qui s'interroge sur la pertinence des propositions qui nous sont faites en matière de formation? Réagir adroitement aux situations potentiellement conflictuelles et les apaiser. Ah bon, parce que maintenant le conflit, il faut forcément l'apaiser. Ben, et pourquoi donc? Pour Sarah Schulman, dans son livre Conflict is not abuse, le conflit doit être au contraire valorisé. Il stimule et fait vivre une institution. Basique, mais visiblement pas pour Be Human Consulting. Alors on pourrait en rire si ce n'était pas si triste. Moi j'aimerais profiter d'un cours que j'intitulerais Comment supporter un environnement hospitalier qui infantilise ses collaborateurs?
Témoignage 2.
Ma patiente est hospitalisée depuis un mois en gériatrie. C'est une personne réservée qui ne souhaite pas déranger. Son époux vient parfois nous trouver dans le bureau infirmier pour nous signaler qu'elle n'a pas osé dire qu'elle avait un peu plus mal ou qu'elle ressentait des nausées. C'est un couple très uni. Lui, il passe chaque après-midi à ses côtés, m'appelle régulièrement pour avoir de ses nouvelles. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont plus de famille proche. Un jour, ma patiente se complique et la situation devient critique. Il faut la transférer en soins aigus. J'appelle l'époux qui arrive aussitôt. Je leur explique que le pronostic est incertain. Ils restent tous les deux silencieux. Puis ils me demandent de remercier l'ensemble de l'équipe pour la prise en charge. Je les laisse seuls dans la chambre pour un moment à eux, avant l'arrivée de l'ambulance. Quelques minutes après, de la fenêtre de mon bureau, je vois l'époux quitter l'hôpital, des larmes au bord des yeux. Et des miens aussi.
Témoignage 3.
C'est une nuit infernale aux urgences pédiatriques, ma quatrième d'affilée. Je n'en peux déjà plus à 20h30 quand je reprends la garde et la salle d'attente débordant. Les heures passent, mais la salle d'attente change peu. Toujours des parents cernés, des enfants qui roupillent sur leurs genoux, et parfois quelqu'un qui se lève pour aller se plaindre de l'attente au tri. Je vais chercher mon prochain patient et me rends compte qu'ils attendent depuis plus de 6 heures. Je me sens mal pour eux. J'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas suffi pour réduire l'attente. Je m'attends à recevoir une énième remarque sur notre inefficacité, mais rien. Ce papa me sourit et me suit avec un petit garçon dans les bras. Nous nous installons dans la salle d'examen et j'écoute leur histoire. Le petit aurait mis quelque chose dans son oreille la veille et ils n'ont pas réussi à le retirer. Je prends l'otoscope, regarde, mais ne vois rien de particulier. Peut-être me suis-je trompé de côté? Je contrôle le conduit auditif de l'autre oreille, mais rien non plus. Je me sens encore plus mal. Ils ont attendu tout ce temps pour rien. Je me prépare à un exutoire de frustration, mais une fois de plus, rien. Le père me sourit, me souhaite une bonne fin de garde et s'excuse d'avoir pris 10 minutes de mon temps pendant une nuit si occupée. Je suis tellement fatigué que sa résilience et son empathie m'émeuvent. Je lève les yeux, il commence à faire jour.